Alors, nous allons introduire la prédication de Philippe Cornu par trois lectures. Tout d'abord, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 7. C'est une lecture assez étonnante, il faut vous accrocher. Bien assis. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, en tout cas. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi. C'est le mal qui est à ma portée, car je prends plaisir à la loi de Dieu en tant qu'homme intérieur, mais dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que ratifie mon intelligence. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres.
Je lis un Galates 5, versets 17 et 18. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
La troisième lecture est tirée de la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3. Versets 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions.
Voilà le clip que nous avons eu en introduction, est directement lié à notre sujet d'aujourd'hui. Je ne comprends rien à ce que je fais. C'est quand même l'apôtre Paul qui dit ça, et ce n'est pas le moindre des théologiens. À titre tout à fait exceptionnel, je vais commencer notre méditation par une petite annonce. C'est suffisamment rare pour le souligner. Aujourd'hui, nous commémorons un événement qui a eu lieu il y a tout juste 408 ans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'objet de notre commémoration, je le rappelle très succinctement. Peut-être la famille Sewell, peut-être d'autres. Dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602, je vais faire bref, un voisin, le duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie, a attaqué Genève pendant la nuit avec 2000 mercenaires, avec des échelles pour passer sur les murailles. Et c'était une bagarre qui a quand même fait quelques morts. Il y en a même eu 67 décès du côté français. Et il y a eu 18 du côté genevois. Et cette bataille de 1602 est commémorée aujourd'hui par un magnifique cortège folklorique qui va défiler dans les rues de la vieille ville. C'est devenu un souvenir extrêmement joyeux. À l'origine, c'était assez triste. Mais bon, vous pouvez assister cet après-midi à 17h dans les rues, un magnifique cortège avec 60 figurants montés sur des chevaux avec des costumes d'époque. Tous ceux qui ne connaissent pas cela, je les invite à voir ce spectacle. Ça, c'est la fin de la petite annonce. Et notre sujet de ce matin a quelque chose à voir avec la fête de l'escalade. C'est pour ça que j'ai choisi ce terme. Je ne comprends pas ce que je fais. Quelques jours après la bataille de l'escalade, il y a quelqu'un qui a composé, au début de l'année qui suivait, donc 1603, qui a composé un chant de 68 strophes. C'est un peu plus que ce qu'on a chanté, 68 strophes, et qui dit au fond, dès son début, c'est Dieu le maître des batailles. Je me suis demandé pourquoi la plupart des nations ont une devise. Une devise, j'entends pas la devise financière, évidemment, mais la devise qui est une sentence semblable à un mot d'ordre. La coutume des devises familiales a aussi longtemps existé, en tout cas était florissante tout au long du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a duré à peu près 1000 ans, c'est pas rien. Et toutes les familles influentes, notamment, avaient une devise. À l'époque de l'escalade, les États, tant français que suisses, n'avaient pas la structure politique que nous leur connaissons aujourd'hui. Et la République française, issue de la Révolution de 1789, possède une devise que nous connaissons tous, liberté, égalité et fraternité, devise très honorable en soi, mais qui fut plusieurs fois remise en cause depuis 1789 au gré des différents régimes politiques et des aspirations qui ont apparu, qui ont jalonné l'histoire. Par exemple, il y a eu comme devise de la République « Honneur et patrie » et puis « Travail, patrie, propriété ». Et dans le régime de Vichy, entre 40 et 44, la devise était « Travail, famille, patrie ». Et finalement, en 1946, la devise « Liberté, égalité et fraternité » a repris le dessus et elle est définitivement adoptée. Elle figure sur les monuments publics, les édifices, je crois peut-être les pièces de monnaie même. C'est une vision humaniste, républicaine, qui réunit trois valeurs fondamentales, et nous allons voir qu'il y a un rapport entre cette devise et d'autres que nous allons voir, et notre premier texte biblique de l'apôtre Paul qui dit « Mais j'ai la volonté de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas ». Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été proclamée quelques années après la Révolution, c'est-à-dire en 1793, la liberté a été définie comme le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. En d'autres termes, mon intérêt personnel est limité par celui des autres. Très bien. Sous la notion d'égalité, il est rappelé que la loi sera désormais la même pour tous. Par conséquent, les distinctions de naissance, les privilèges, par exemple, la condition sociale, ont été abolies dans le sens où chacun est réputé participer à l'intérêt collectif et contribuer notamment aux dépenses de l'État, dans la mesure de ses moyens, l'État étant un régulateur de la vie sociale. Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 pose comme principe que tous les hommes sont égaux, par nature et devant la loi. Tous les hommes au sens mensch, hein, pas man, pas le sexe masculin, tous les hommes et les femmes, tout le genre humain. Enfin, la fraternité. La fraternité est mise en avant dans la Déclaration des droits et devoirs du citoyen. C'est un nouveau texte qui a apparu en 1795, et je vous le lis tel quel. « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. » Et faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. Ce dernier principe est tout à fait biblique. Remarquons en passant que liberté et égalité se définissent comme des droits, statut du citoyen, alors que la fraternité se définit davantage comme un devoir, une obligation de chaque citoyen vis-à-vis de son semblable. Ces valeurs sont assez proches de la pensée biblique, dans la mesure où la liberté de penser est établie, la liberté de croyance existe, le régime politique consacre l'égalité de traitement devant la loi, la solidarité, qui est un effort de participation au bien commun, est prônée. On pourrait donc applaudir si au moins c'était appliqué. Et j'évoquais la France, mais qu'en est-il chez nous, en Suisse ? La devise de la Suisse n'est pas « liberté, égalité, fraternité ». Un temps, je pensais que la devise de la Suisse, c'était la devise du canton d'où je viens, canton de Vaud, qui met sur son drapeau « liberté et patrie ». Liberté et patrie, c'est même sur l'écusson du canton. On a vite fait de le reformuler « liberté et parti ». Et la devise, dans les temps actuels, la devise de la Suisse n'est pas, je précise, n'est pas non plus l'adresse internet yona.com. Il y en a qui ont dit ça. La Suisse, yona.com. Mais en fait, la devise de la Suisse, c'est une sentence écrite en latin sur le dôme du palais fédéral dans les termes suivants. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Alors, comme je ne suis pas latiniste, j'ai appris récemment la traduction littérale, un pour tous et tous pour un. On croit rêver, n'est-ce pas, tant c'est beau, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité non plus. Je me suis penché sur les devises de nombreux États. Et pour me faire une idée des aspirations que les gens ont quand ils proclament une devise nationale, tous les États ne possèdent pas une devise, mais ils sont quand même très nombreux. Il y a des devises officielles et puis il y a des devises populaires, mais enfin bon. Dans ces petits mots d'ordre, on voit très souvent le mot liberté, travail, foi, unité, justice, paix, prospérité. On le voit presque dans toutes les devises. La devise est toujours très brève, c'est 3 mots, 4 mots, et elle exprime la vision des fondateurs du régime politique. En principe, la devise va fédérer la nation, fédérer les gens autour d'un principe auquel on adhère de manière tacite. Alors, c'est rassembleur, c'est très idéaliste, mais enfin, ce que l'on constate, c'est que si les principes énoncés par ces devises sont excellents, leur réalisation est extrêmement laborieuse. Intuitivement, nous savons que pour qu'un groupe social fonctionne à peu près, il faut au minimum 3 ingrédients. Je mets dans une terrine. Il faut de la justice. Il faut de la sécurité. Et il faut un peu de liberté. S'il n'y a pas au minimum cela, eh bien, ça ne joue pas. Sans la justice, il n'y a pas de sécurité, parce que les individus vont faire la justice eux-mêmes. Sans sécurité, il n'y a pas tellement de liberté, parce que dans un climat de peur, les lois volent en éclats. Et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, si la devise de Genève, je pense que tout le monde connaît la devise de Genève, post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière, c'est calvinien. Si on la remplaçait aujourd'hui par sécurité, justice et liberté, c'est une autre façon de voir, elle serait sûrement tout à fait adoptée, oui, qui ne voudrait pas vivre dans un bon climat social. Est-ce que c'est difficile à réaliser ? Bien, comment, par exemple, font nos autorités pour réaliser ne fût-ce que le premier mot, sécurité ? Comment est-ce qu'elles font ? Bien, elles créent de nombreuses commissions, de nombreuses lois qui visent à résoudre l'incivilité, qui placent des caméras de surveillance, qui vont poser des obstacles sur la route pour éviter les chauffards, qui vont mettre des radars partout, pour ralentir le trafic, qui vont obliger les gens à acheter des... J'ai vu ça parce que j'ai un petit-fils qui est né il y a quelque temps et ses parents ont dû acheter un espèce de truc électronique pour fixer le landau du bébé. Faut voir ce trapèze électronique avec des trucs qui s'allument. Quand c'est vert, le bébé est bien calé. Terrifiant. Nous, on posait sur la banquette arrière et ça suffisait. Et au fond, les autorités vont mettre de plus en plus de contraintes et vont même ériger des barrières spéciales entre les fans des équipes de football et mettre des gens armés dans les trains, au pire, hein. Donc, on constate un mécanisme que pour augmenter la sécurité, on va diminuer la liberté. Et on crée ainsi un sentiment d'injustice. Pauvres autorités, comment vont-elles faire comprendre au peuple que la sécurité se paye au prix de la liberté? Alors il y a beaucoup de gens, et moi j'en entends souvent, qui disent, comme un slogan, comme une devise, comme ça, devise sociale, ouais, quand on veut, on peut. Ah bon? Ou bien, vouloir, c'est pouvoir. Je pense que tout le monde a déjà entendu cela. Vouloir, c'est pouvoir. Un peu le genre américain. Yes, we can. N'est-ce pas? Nous le pouvons. Ah bon? Ben, on se réjouit de voir. Hein. Allez-y, on se réjouit de voir. Alors, personnellement, je pense que le slogan « vouloir, c'est pouvoir » est un magnifique mensonge dans la mesure où cette réalité n'appartient qu'à Dieu. Pas aux hommes. La foi que nous pouvons avoir dans un projet, dans une idée, peut nous donner du zèle, bien sûr, peut nous doper, bien sûr, mais ne nous donne pas magiquement les moyens. La réalité humaine, à mon avis, est plutôt l'inverse. Pouvoir quelque chose nous donne la possibilité de vouloir. Je me suis demandé, mais qu'en est-il de notre foi? Quel est le problème de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit, mais je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends rien à ce que je fais. Hein? Mes actes ne suivent pas ma volonté. Je vois ce qui serait bien, j'arrive pas. Alors, Paul dit même quelque chose de pire. Il dit, je vois que le bien semble à ma portée. Je pense avoir la capacité de faire le bien, je fais le mal. Ce que je hais, je le fais. Alors, on va reprendre les devises après la France et la Suisse, les M, dans le cadre de notre modeste assemblée évangélique, église évangélique de Mérin, nous avons une devise. J'espère que tout le monde en est conscient. Elle est très belle, elle est très simple, elle est très accessible. Elle constitue en quelque sorte notre vision, notre vocation collective, si j'ose dire. Trois mots, rejoindre Mérin ensemble. Oui, elle est bien. Elle est bien cette devise. J'y ai pensé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça implique intuitivement? Quand le conseil l'a présenté comme la vision pour Mérin, je pense qu'on a acquiescé, nous avons été d'accord. Qu'est-ce que ça implique? Intuitivement, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'académie d'Ushi pour savoir ce que veut dire rejoindre. Rejoindre, c'est sortir, prendre notre manteau, mettre des chaussures, aujourd'hui il faut mettre un manteau, il fait froid, et puis aller là-bas, au forum, au café, rejoindre les gens, partir, les voir au cinéma, au marché, au centre commercial. C'est un peu faire ce qu'on a vu dans le clip que nous a passé Alexandre. Ce clip où les gens dans un bistrot, ben, ils ont rejoint les gens, ils ont chanté Alléluia, c'était une manière de les rejoindre. Mais évidemment, à part l'observance géographique de cette devise, rejoindre Mérin ensemble, il y a l'esprit de la devise. Et l'esprit de la devise, c'est qu'on ne veut pas seulement aller boire des cafés, être géographiquement avec, ça c'est déjà une chose, mais c'est aussi dire quelque chose aux gens, leur dire notamment qu'il y a une espérance attachée au nom de Jésus. Et on aimerait qu'ils en soient conscients, qu'ils puissent croire, non pas pour nous faire plaisir, mais pour être sauvés. C'est simple. Pourquoi avons-nous de la peine à le faire? Est-ce qu'il y a aussi en nous ces deux courants contradictoires? D'une part, notre volonté de rejoindre Mérin ensemble pour y exercer notre vocation que nous avons tous, réconcilier le monde avec Dieu. Nous l'avons tous. Mais il y a un frein qui nous retient de le faire, et la question que je me pose, mais contre quoi faut-il lutter? Où est l'ennemi? Est-il interne ou externe à nous-mêmes? 99,86% d'entre nous savent par cœur le verset qui dit que ceux qui ont accepté le règne du Christ dans leur vie, qui ont fait allégeance au Christ, ont adopté un nouveau régime dans leur vie, une nouvelle référence, on dit un nouveau paradigme, c'est un nouveau système de pensée. Les baptisés qui étaient ici il y a 15 jours nous l'ont rappelé. Alors je m'en rappelle moi-même, pas par cœur, c'est pour ça que j'ai mis 99,86%, et je vous le lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. C'est pas difficile à comprendre, mais c'est difficile à faire. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir, disait l'apôtre Paul. Est-ce que par hypothèse, nous aurions une fausse image, une fausse notion de la liberté? On cite volontiers l'apôtre Paul quand il dit « Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté ». Mais c'est le même auteur qui dit « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas ». C'est le même qui dit les deux choses. Donc il faut peut-être préciser la nature de la liberté à laquelle nous sommes appelés. Parce qu'il y a une divergence complète de contenu entre la liberté proposée par le monde et la liberté offerte par le Christ. Jésus a été très clair là-dessus. Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Par conséquent, les valeurs de son royaume ne sont pas les valeurs du monde. La liberté proposée par notre société correspond exactement à ce que Jésus appelle un esclavage. Et Jésus est venu précisément pour nous faire passer d'un régime légal mondain, la tyrannie de nos passions, desquelles Satan se sert, à un autre régime qui est un joug doux, et un fardeau léger. Le joug du Christ est réputé être doux parce qu'il ne blesse pas, et son fardeau léger parce qu'il n'accable pas. La loi du Christ a une vertu très particulière. Elle libère. C'est paradoxal de dire qu'une loi libère. Habituellement, une loi, elle contraint. Oui, une loi contraint, elle limite la liberté. Mais de quoi peut bien nous libérer la loi du Christ? Eh bien, elle nous libère de nous-mêmes. Elle nous libère de nos penchants naturels, opposés à Dieu. En Jean 8, 31, Jésus polémique avec les Juifs sur la question de l'esclavage et de la liberté par rapport à leur statut de Juif, de peuple élu, de peuple de Dieu. Et les Juifs revendiquent « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Comment peux-tu dire « vous deviendrez libre » Ils disent en somme « Nous avons, nous, les privilèges de la postérité d'Abraham. Nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes dans les bons, nous sommes esclaves de personne. » Jésus leur dit « Si donc le Fils ne vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Aussi, prendre sur nous son joug, faire allégeance à sa personne, procure un changement de statut. Un changement de statut parce que nous passons du statut d'esclave de nos passions et nous passons à la liberté de vouloir ce que le Christ veut. Mais il convient de souligner, c'est que lui, il possède non seulement le vouloir, mais aussi le pouvoir. Justement, ce pouvoir qui nous fait défaut. Par conséquent, si notre volonté correspond à ses projets d'amour, nous dépendons cruellement, entre guillemets, d'un pouvoir qui ne nous appartient pas. En d'autres termes, sans son esprit, nous ne pouvons absolument pas faire ce qu'il nous demande, par exemple, les œuvres qu'il a faites et même de plus grandes. Sommes-nous vraiment conscients que l'esprit n'est pas une devise ou un principe, mais une puissance qui vient suppléer à notre incapacité naturelle? Avec lui seulement, avec lui, on peut commencer à dire, quand on veut, on peut. Mais quel chemin? On n'est pas du tout dans la volonté humaine autonome. Et l'apôtre Paul dira, lui, finalement, c'est lui qui accomplit en vous le vouloir et le faire de ses projets d'amour. En conclusion, si nous définissons le mal comme ce qui est contraire à la volonté de Dieu et le bien comme ce qui est conforme à la volonté de Dieu, nous voyons que la vie chrétienne est un combat non seulement contre le mal qui nous entoure, mais contre le mal qui est en nous. En précisant aussitôt que le mal qui est en nous, par nature, il réside par une espèce d'hérédité. Le bien est en nous par grâce. Ne mélangeons pas les deux plans. Rappelons-nous que le bien croît, grandit proportionnellement à la place que nous offrons à l'Esprit Saint dans notre vie. Dans une de nos études bibliques, nous avions remarqué que lorsque nous prenons sur nous le joug doux et le fardeau léger du Christ, et ça c'est notre troisième texte qui le rappelait tout à l'heure, nous sommes déclarés morts par rapport aux valeurs du monde. Nous perdons notre citoyenneté mondaine pour recevoir celle du royaume de Dieu. Mais étant donné que nous ne sommes pas encore dans le royaume, nous n'en avons que la carte d'identité, nous sommes appelés pendant le temps qui nous reste à vivre à faire mourir, c'est marrant, faites mourir, vous avez vu ce texte, faites mourir volontairement les penchants de votre nature humaine, déconnectée de Dieu, porteuse de ce virus du péché. Soumettons donc nos intentions bonnes et justes au Seigneur pour qu'il les réalise par ce pouvoir qui ne nous appartient pas, le pouvoir de l'Esprit. Nous avons la volonté, il a le pouvoir. C'est la condition pour réaliser les œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance pour que nous les accomplissions. Amen.